Il est 9h22 minutes. C'est une habitude qu'on a prise au cours de l'été, ça, de recevoir des politiciens et puis de leur parler un peu de leur vie, de ce qu'ils sont, essayer de les connaître un peu plus, parce que souvent, il y a toujours l'actualité qui vient nous empêcher de savoir qui sont ces gens-là. Et aujourd'hui, ça me fait plaisir de recevoir Caroline Proulx, qui est députée de Berthier pour la coalition Avenir Québec, mais également ministre du Tourisme. Bonjour, Madame Proulx.
Salut, Monsieur Lacroix.
On va se tutoyer, là, parce qu'on
oui,
se connaît.
On peut pas. Hein. Je pense que les gens vont le savoir, Louis. Pas trop longtemps qu'on se connaît.
Exactement. Ben, Caroline a travaillé longtemps dans les médias. Tu as travaillé d'ailleurs ici, à l'époque, ça s'appelait C'est cassé. Là.
Ouais.
Et tu as travaillé ici avec ton père. Et il y a une anecdote. Tu es arrivé tantôt et tu as trouvé une photo de ton père sur les murs, parce qu'ici, quand on se promène dans les corridors, il y a beaucoup d'archives qui démontrent justement le fait que la station a beaucoup d'histoire.
Ouais,
et t'as trouvé une photo de ton père, ça t'a ému un peu. Hein?
Ça m'a... Ben, papa va... C'est 6 ans. En décembre prochain, que Jacques est décédé.
Ouais.
Je l'ai pas revu depuis. Et ça m'a profondément ému de marcher dans le corridor ici. Puis surtout qu'on honore la mémoire de Jacques Proulx, parce que... Jacques, ça a été un maudit bon animateur de radio. Ça a été un grand morning man.
Le premier à avoir 1 million d'auditeurs.
Tu te souviens de ça?
Oui.
Le premier à avoir 1 million d'auditeurs. Tu sais, Paul Arcan est un grand animateur que je respecte beaucoup. Mais Jacques a fait beaucoup pour la radio. Jacques m'a tout appris quand j'ai commencé le métier à la radio. À CKAC, en 86, j'étais de nuit les week-ends.
Mm-hmm.
Puis Jacques était au téléphone, couché dans son lit.
Ouais.
Et puis il me disait, bon, là, parle moins vite, Caro. Puis après la pause, là...
Il donne coachait.
Il était incroyablement dédié à ma carrière. Il n'a jamais fait d'ingérence. Jamais. Ouais. Ni Jacques, ni Gilles, d'ailleurs.
Mm.
Parce que Gilles,
c'est ton mon oncle.
En plus, oui. En plus,
t'avais deux pas pires coachs, quand même.
Mais je pense qu'en termes d'école privée, c'est difficile d'avoir mieux que Jacques Proulx et Gilles Proulx, qui ont deux styles complètement différents en termes d'animation.
Mais c'est drôle que tu l'appelles Jacques. Est-ce que... pourquoi, au juste, tu l'appelles Jacques au lieu de papa ou au lieu de... je sais pas.
Parce que j'ai jamais voulu, quand je suis rentrée dans les médias, faire référence continuellement que Jacques était mon père.
Mm-hmm.
Et j'avais un nom de famille dont je suis très, très fière d'avoir. Mm-hmm. Mais pour moi, il était important, même à 17 ans, 18 ans, d'imposer la distance entre mon père, qui était le morning man numéro un en Amérique du Nord pour une station qui s'appelait CKAC.
Ouais.
Alors, volontairement, on avait pris la décision, Jacques et moi, que lorsqu'on travaillait ensemble, qu'on était dans les studios, qu'il allait m'appeler
Caroline. C'était
Jacques
et Caroline.
Absolument. Ouais. Il y avait pas de demi-mesure. C'était, on voulait cette distance-là, Jacques et moi.
OK. Qu'est-ce qui s'est... Vers la fin de sa vie, vous avez été en brouille, je pense. Hein? Vous avez arrêté de vous parler.
10 ans.
Pourquoi?
Je l'ai vu la veille de son décès. Mes deux sœurs, Marjolaine et Christiane, m'ont appelé. J'étais à l'époque à Radio X à Montréal. Puis ils m'ont dit, papa va vraiment pas bien. Tu vois, là, je l'appelle papa.
Ouais.
Je suis allée le voir. J'ai eu un énorme choc en le voyant.
Est-ce qu'il était conscient à ce moment-là?
Il était conscient. Quand je suis entrée dans la chambre, il est mort quelques heures après, d'ailleurs. Papa m'avait dit, vous allez être bien. Vous allez être bien maintenant que je m'en vais. Puis je disais, ben non, papa, c'est correct. Là, c'est... J'y avais pas parlé depuis 10 ans.
Mm.
Fait que je l'ai vu la journée de son décès, littéralement. C'est une autre génération d'hommes, Louis.
C'est quelqu'un qui était dur, qui était dans les relations interpersonnelles?
Très.
Oui.
Il n'a pas toujours été super fin, Jacques. Il avait une réputation exceptionnelle. En fait, le lien qui m'unissait à Jacques, c'était vraiment la radio.
Mm-hmm.
J'avais avec lui cette bulle-là où je pouvais échanger avec un grand animateur de radio, puis je pouvais oublier le père qui n'a pas toujours été...
présent?
Il était carrément absent. Je n'ai aucun souvenir d'être entré de l'école et d'avoir vu mon père à la maison.
Jamais.
L'alcool. Ça peut faire des ravages, l'alcool. Puis le jour qu'il est décédé, il s'est profondément excusé. Il avait les yeux qui roulaient dans l'eau, évidemment. Puis ça a bien fermé le livre pour moi. Très bien fermé le livre. Mais j'ai tellement d'admiration pour lui.
Oui, bien sûr, avec raison. Mais le fait de l'avoir vu la dernière journée, quelques heures avant son départ, ça t'a réconcilié un peu avec lui?
J'y en veux encore parfois, ouais. Je te dirais. Je lui parle occasionnellement. Et quand je lui parle, je dis là, t'as besoin de répondre à ma demande parce que mm-hmm. c'est rare que je te demande quelque chose. Encore un peu.
Ouais.
Ouais, c'était pas un père qui était facile avec ses enfants, qui était très exigeant avec mm-hmm. ses filles, qui demandait toujours l'hyperformance de ses filles.
Ouais.
C'était rarement bon, c'était rarement, en fait, c'était jamais parfait. Mm-hmm. Il était très, très, très exigeant de ses trois filles. Ça nous a marqué okay. Beaucoup, mes sœurs et moi, mon frère aussi. Mais il y avait un contrepoids qui s'appelait Louise Derry, qui a été une mère exceptionnelle
ouais.
et un père pas mal fantastique.
Ouais. Ouais.
Ma mère, je la célèbre.
De qui t'es encore très proche, d'ailleurs.
Oui, Loulou, ouais. 86 et demi, fait son kayak à tous les jours, très proche de Louise, très proche.
Mais tant mieux, c'est, ouais. c'est l'espèce de contrepoids à l'absence, ça amène un certain équilibre quand même.
On choisit ouais. pas nos enfants,
ouais.
on choisit pas nos parents.
Ouais.
Et on fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Mais ouais. je garde néanmoins, je te le dis, je suis encore ému là, de voir la photo de Jean dans le corridor ici.
Ta vie a toujours tourné autour des communications, toi.
Oui.
Évidemment, t'avais quand même
des prédispositions.
C'est ça, une prédisposition, là.
Tu sais que j'ai demandé à mon père de ne pas aller à l'école. Lise Lapointe, qui est là, se rappellera. Oui. Petit bout, j'avais 5-6 ans. Je tirais sur le bas du pantalon de mon père. Oui. Puis je le suppliais de m'amener en studio avec lui. Gilles, évidemment. Un truc que tu sais pas qui est vraiment intéressant, c'est mon grand-père maternel,
oui.
Gérard Évangéliste Derry,
oui.
qui est né aux États-Unis en 1902, enfant unique d'ailleurs, oui. qui n'existait pas en 1902. Ses parents, mon arrière-grand-père Michel l'a envoyé étudier à Harvard en journalisme.
Oui.
Et mon grand-père, pour arrondir ses fins de mois, était pianiste au cinéma muet.
Ah oui?
Oui, et donc a fait son cours en journalisme, n'aimait pas particulièrement, même s'il était américain, les États-Unis. Est rentré au Québec et était courriériste parlementaire.
Arrête donc.
À Québec.
À Québec?
Oui, pour le Montreal Star.
Ah bon, mon Dieu, je savais pas ça.
Alors, grand-papa a foulé les mêmes corridors qu'aujourd'hui.
Ben oui.
Je me retrouve à fouler. Fait que c'est beaucoup plus large que mon père et mon oncle. C'est même mon grand-père maternel.
OK. Ouais. Donc, la famille rejoint un peu parce que là, tu te retrouves en politique, évidemment. Tu es au Parlement tous les jours pendant la session, évidemment. Alors, il y a une espèce de cercle qui se ferme quelque part là-dedans.
C'est assez particulier de voir ouais. comment la vie te ramène à ce qui t'a toujours nourri profondément comme
ouais.
enfant.
Ouais.
C'est assez particulier. Je pense que grand-papa serait bien fier. Bien fier.
On t'a suivi partout. Évidemment, t'as été à la radio, t'as été à la télé avec les Lyonnes, etc. Qu'est-ce qui t'a amené à la politique? Pourquoi, à un moment donné, tu décides que cette carrière-là est terminée puis que maintenant, tu te tournes vers la politique?
C'est un peu la faute à Mario Dumont.
Ah oui?
Ouais,
parce que tu as travaillé avec Mario Dumont, évidemment.
Quand j'ai terminé les Lyonnes en 2010, ouais. Jean-Nicolas Gagné, que tu connais très bien, qui est ouais. un ami commun à nous deux, et Mario m'ont téléphoné pour me demander si j'étais intéressée à croiser le fer avec Mario de façon quotidienne à l'époque à V.
Mm-hmm.
Et tu connais Gilles, tu connais Jacques,
ouais.
Des souverainistes indépendantistes, indécrottables. Et lorsque j'ai rencontré Mario Dumont, il m'a proposé une réflexion politique qui était complètement en dehors de ce qui m'avait été nourri, donné ouais. tout au long de mon enfance.
Ouais.
Et ça m'a beaucoup interpellée. Monsieur Legault, que je connaissais de façon personnelle, ouais. Lyon, mm-hmm. Suzanne Évêque, François Macérola étaient des amis de Monsieur Legault et de Isabelle Bray. Donc, je les rencontrais. Et Monsieur Legault, en 2010, commençait déjà à tâter le terrain pour la création d'un nouveau parti politique. Ouais. Et puis, la réflexion a avancé. Et je trouvais qu'il y avait beaucoup de similitudes entre les médias
ouais.
et la politique.
Ouais.
C'est juste que tu tournes la lorgnette de côté. Alors, plutôt que moi d'interviewer des politiciens, d'essayer de les coincer, puis qu'ils sont là avec leur réponse ouais. politique.
Parce que dans le type de communication que tu faisais, d'émissions que tu animais ou co-animais, etc., t'es très critique à l'égard des politiciens. Là.
Ouais.
Parce que c'était beaucoup de l'opinion, donc tu donnais ton avis. Et là, de te retrouver dans ce siège-là, de celle qui est critiquée, tu prends ça comment?
Bon Dieu que je ne l'avais pas quand j'étais à la radio.
Ah oui?
J'étais beaucoup trop critique.
Ouais.
Je t'écoutais tout l'été, puis j'entendais... lorsqu'on évoque des raisons personnelles pour se retirer en politique,
ouais.
à l'époque où j'étais derrière le micro, je disais, ben oui, facile. Mmh.
Alors, c'est souvent la famille, puis je veux consacrer du temps à mes enfants que j'ai pas vu. Puis là, on a tout le temps l'impression que c'est un peu un faux fuyant pour cacher d'autres divergences politiques, par exemple, ou des trucs du genre.
Moi, je suis absolument convaincue que si j'amenais un seul électeur québécois une seule journée en campagne électorale, que le taux de participation au vote augmenterait de façon drastique. Ouais. On n'a aucune commune mesure. Toi, tu le sais, ouais, parce que tu étais sur les caravanes, ouais, tu en as fait de nombreuses campagnes électorales. Mais c'est très difficile, quand on est animateur, comme je l'étais à l'époque, de pouvoir communiquer au public ce qu'est la réalité de terrain d'une campagne électorale, ouais, d'être député et d'être ministre. C'est très difficile à communiquer parce que ça bouge continuellement, mais il n'y a pas de mots précis, il n'y a pas d'adjectifs, il n'y a pas de situation qu'on peut présenter d'une façon quotidienne, ouais, pour expliquer la grande charge de travail, la grande responsabilité, mais l'énorme plaisir et privilège que ça représente.
Ah oui, hein, parce que ça devient une drogue à un moment donné, parce que les politiciens, généralement, les politiciens ont de la misère à sortir de la politique, et une fois qu'ils sont pas élus ou qu'ils décident de se retirer, après ça, ils vivent une espèce de deuil. Et là, tu comprends, j'allais dire le fixe que ça peut amener.
C'est un énorme... Point. Mais je te dirais que c'est le même fixe que les médias.
Oui.
Tant en onde, toi, là, quand tu arrives ici, là, je suis convaincue que tu as encore cette fébrilité.
Ben oui,
là,
ben
cette
oui. Sinon, on le ferait pas. Là.
Exact. Ouais. C'est vraiment le même genre de fixe, pour reprendre ton expression. C'est une drogue très dure qui est extrêmement plaisante.
Ouais.
Mais les deux, en communication, comme animateur de radio, comme politicienne, c'est un siège éjectable.
Ouais.
Fait que c'est ça où je trouve qu'il y a énormément de similitudes entre les deux. Okay. Tu n'es jamais garanti de rien quand tu es assis dans un siège d'animateur. Hein? Je sais autant que moi.
Qu'est-ce qui allume Caroline Proulx? C'est quoi les choses importantes pour toi dans la vie, dans la société? Qu'est-ce qui devient important pour toi?
Les personnes âgées. Ça fait quelques années à peine que je ne vis plus avec ma mère, à 53 ans. Ça fait juste 8 ans que je ne vis plus avec maman.
Ah oui? T'as vécu toute ta vie dans la même maison que ta mère?
Oui.
Par choix?
Oui. J'ai acheté la maison maternelle. Ouais. Je suis passée du sous-sol au premier étage. Ouais. Maman est passée au sous-sol. Ma mère était très malade pendant de nombreuses années. Je me suis occupée d'elle.
Ouais.
J'ai une grande sensibilité aux personnes âgées.
Ouais.
Je trouve qu'on ne reconnaît pas la valeur de ces gens-là, de ce qu'ils ont fait pour des femmes comme moi. Là, t'sais. Ma mère a 86 ans. C'est impossible de penser que des femmes de cette génération-là ne sont pas directement liées au fait que massivement les femmes sont apolitiques aujourd'hui, qu'on a notre place, qu'on la revendique et qu'on est là. Les personnes âgées, je fais juste ben les aimer. Ben les aimer.
Et est-ce que tu trouves qu'on les traite correctement au Québec?
J'ai eu l'occasion de voyager souvent en Italie et je suis toujours très émue de voir des enfants de 10-12 ans se promener avec leurs grands-parents en leur tenant la main dans la rue. Il y a quelque chose chez les Italiens, la reconnaissance de leurs grands-parents, la très riche valeur de la famille. Ce serait un beau projet de société au Québec de reconnaître l'incroyable importance et valeur de la famille. Tu sais, des oncles, des tantes, la famille élargie, c'est extrêmement important pour l'équilibre d'un enfant. Ce serait un beau projet de société.
Et qu'est-ce qui te choque dans la société?
La maltraitance des personnes âgées.
Ouais,
vraiment, ça me... Ceux qui se font hacker, qui se font arnaquer... Ça me choque profondément. J'ai adoré d'ailleurs la campagne publicitaire il y a quelques années avec Yvon Deschamps, tu te souviendras, qui s'attardait à la maltraitance chez les personnes âgées. Marguerite Blais, c'est juste la ministre parfaite, parfaite pour s'occuper des personnes âgées.
Ben, c'est vrai qu'elle est très, très dédiée. Ben, d'ailleurs, elle est revenue en politique pour ça. Elle s'est occupée de son mari
qui
était en fin de vie.
Oui, elle s'est cassée. J'avais travaillé avec son mari.
Ouais.
Elle est juste exceptionnelle, Marguerite, dans son rôle.
Ouais.
Exceptionnelle, dédiée. Là.
Comment tu as réagi quand on t'a offert un ministère? Parce que, écoute, tu n'avais aucune expérience en politique.
Zéro.
Bon, tu étais quand même un visage connu, là, mais tu n'avais aucune expérience en politique. Tu te fais élire, tu as tout à apprendre. Puis à un moment donné, on te dit, non seulement tu vas devoir apprendre à être une bonne députée, mais aussi une bonne ministre.
J'ai tellement de bonnes anecdotes à te raconter là-dessus que je n'ai jamais raconté publiquement, d'ailleurs. Alors, je gagne la campagne électorale. On s'amène à Québec. À l'époque, on était 74 députés. Madame Guillemette est arrivée après dans la partielle à Robert-Val. Et on est donc les 74 députés, il y a l'équipe du premier ministre désigné qui est là et il y a des gens de communication qui sont là pour faire une espèce de crash course mm-hmm. pour les nouveaux députés de savoir comment s'adresser aux médias. Il y a deux députés qui sont identifiés pour aider les jeunes députés. Louis Lemieux, qui va s'occuper d'un groupe, et Caroline Proulx, qui va s'occuper d'un autre groupe.
Ouais.
Alors, je fais des scrums.
Des gens de communication.
Ouais. Donc, je fais des mêlées de presse fictives avec les nouveaux députés. Et à la fin de cet exercice-là, je m'en vais à l'arrière de la salle et je dis à l'entourage du premier ministre, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui cognent à la porte, j'aimerais vous signifier que je ne veux pas être nommé. C'est mon troisième métier. Ouais. Je veux apprendre le métier de député de belle et de bonne façon. Je veux prendre mon temps. Et la personne en question, dont je vais taire le nom, s'était mis à rire. Alors, on s'en va à l'assermentation de député.
Ouais.
Je sors de l'assermentation et on m'envoie à 24-60 avec Anne-Marie Dussault pour parler du micro à député. Et à ce moment-là, mon téléphone cellulaire sonne. Et je suis avec une attachée politique.
Pendant que tu es à l'entrevue ou...
Pendant que je me dirige vers l'entrevue.
Okay.
Et je présente mon téléphone cellulaire à Marie-Joëlle.
Ouais.
Et je dis, c'est qui ça? Et elle me regarde, ben, il faut que tu répondes. Et littéralement, Louis, je dis non, je veux pas. Elle me tire sur le bras pour m'amener à Anne-Marie Dussault.
Ouais.
Le lendemain matin, moi, je pensais rester juste une journée à Québec. Je suis en running shoe, il mouille de travers. Écoute, ma voiture est garée loin. Ouais. Je m'en vais voir le premier ministre, j'ai le toupette mouillé, le mascara qui coule. C'est épouvantable l'image que je dégage. Et je rentre dans le bureau du premier ministre et il me dit tes capacités de communication, t'es proche du monde, Caron.
Ouais.
J'aimerais ça que tu prennes le ministère du Tourisme du Québec. J'ai eu 48 heures, je te jure, couché sur mon plancher de cuisine à terre à Montréal. Elle me dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et aujourd'hui, puis... ouais. c'est le fixe, comme tu disais. Ouais.
Puis le tourisme, en fait, tu te sembles très à l'aise dans ce ministère-là. Pour toi, c'est un beau cadeau, le ministère du tourisme.
Oui, puis, tu sais, au fil des ans, on a vu un peu des gens qui héritaient du ministère du tourisme lorsqu'il y avait une démotion, tu sais. C'est un secteur de l'économie extrêmement important au Québec, tu sais. On a un des plus beaux terrains de jeu au Québec.
Oui.
Il y a des centaines de milliers d'entrepreneurs là, qui travaillent de grip and grap pour faire en sorte que l'international entre chez nous. Le Québec, c'est une super destination. Tu as beaucoup voyagé, tout comme moi, Louis. Puis quand tu reviens à la maison, tu te dis, waouh, on a vraiment un beau terrain de jeu ici. Ouais. Tu sais, entrer davantage de touristes internationaux au Québec, c'est vraiment mon mandat.
Je me suis rendu compte de ça aux Îles-de-la-Madeleine, entre autres. Tu arrives aux Îles-de-la-Madeleine, tu te dis, non, mais ça se peut-tu que c'est chez nous, ça? Tu sais, c'est extraordinaire. Tu es complètement dépaysé. Tu es encore capable de te dépayser au Québec, parce qu'on connaît très peu le Québec jusqu'à un certain point. Moi, j'ai beaucoup voyagé au Québec depuis quelques années parce que je me rendais compte que je connaissais pas le
territoire
complètement
québécois.
Le territoire.
Non,
tu sais.
C'est vrai qu'on le connaît pas.
Qui est déjà allé dans le nord du Québec, dans le bout de Radisson, la route Trans-Taïga, ces routes-là? Personne va là.
Au nord du 49e, là, on n'a rien à envier à l'Islande, à la Norvège, à la Suède. On a, des spectacles qui sont vraiment de très, très grande qualité.
Ouais.
Et je m'emploie beaucoup, beaucoup à dire aux Québécois, à l'international aussi, mais aux Québécois, à dire, venez découvrir notre territoire, quelque chose d'exceptionnel ici.
Tu vas faire ça combien de temps, de la politique?
Oh, le plus longtemps possible.
Ah oui?
Ouais.
T'aimes ça à ce point-là, ça te...
À ce point-là.
Ça te stimule à ce point-là.
Ah oui, et des fois, je tape du pied. Là. Quand j'ai une journée peut-être un peu plus tranquille, là, je tape du pied et j'ai hâte de recommencer. Parce que c'est une courbe d'apprentissage qui est phénoménale. Mm-hmm. C'est une université en concentré. C'est de rencontrer des gens de l'industrie qui sont animés, qui sont passionnés. Puis oui, pense-y.
Ouais.
Tu es assis à la table du Conseil des ministres. Moi, je suis des fois à mon cabinet, mais je regarde l'Assemblée nationale, puis je me peins, je me dis, hey, moi, je travaille là.
Mm-hmm.
Moi, je travaille là.
Ouais.
C'est vraiment une expérience. Je suis une grande privilégiée de la vie. Ouais. Grande, grande privilégiée de la vie.
Puis si on t'avait dit ça il y a 10 ans, que tu ferais de la politique, y aurais-tu cru aussi, est-ce que c'était une vocation, autrement dit, qui était là depuis longtemps, ou si c'est venu sur le tard?
Je te dirais qu'en 2010, donc ça fait une dizaine d'années que j'y songe... De faire le saut en politique. Tu m'aurais dit ça il y a 15 ans quand j'étais dans les médias, 20 ans, 30 ans dans les médias. Jamais, jamais, jamais j'aurais pensé à ça. J'aimais beaucoup trop challenger les politiciens, leur rentrer dedans un peu, que j'aurais jamais pensé faire le saut, mais je ne retournerais pas dans les médias, pour être franche avec toi.
Ah non?
Non, non.
Pourquoi? Parce que cette vie-là, t'as... T'as écorché ou quoi?
Ah, pas du tout, au contraire, ça a été des années exceptionnelles.
Ça a été bon pour toi, il me semble, t'as travaillé. Mais t'as beaucoup travaillé, d'ailleurs.
Oui, 30 ans, 32 ans même. Je regarde la situation des médias et j'ai beaucoup d'empathie pour les gens qui travaillent dans l'industrie radiophonique, télévisuelle, les journaux, les quotidiens. Louis, j'ai fermé 3 stations de radio. J'ai fermé plus de stations de radio que j'en ai ouvertes. Je suis très sensible à ce qui arrive à l'industrie des médias. Je souhaite qu'elle survive, qu'elle grandisse, qu'elle progresse. Pour moi, c'est capital de conserver l'intégrité, l'indépendance des médias au Québec. Mais c'est une des raisons qui m'a fait quitter les médias aussi, parce que je voyais qu'il y avait un effritement, c'était difficile, les revenus publicitaires étaient de moins en moins là. Alors, ça a été une des raisons qui a fait que j'ai fait le saut en politique, parce que je voyais que ça se complexifiait sérieusement.
Mais Caroline, ça a été un plaisir de te recevoir à cette émission.
Merci.
J'espère que les gens te connaissent un peu mieux. Puis, je pense que oui, de toute façon, on te connaissait déjà. Tu étais déjà un personnage public. Mais de voir ce côté humain-là qui est très fort en toi, ça, je pense que c'est assez touchant.
Merci, Louis, de l'invitation. Je l'apprécie.
Merci d'avoir été
Salut.
Là.
Hey, bonnes vacances, Louis.
Merci beaucoup. Pose-toi. Dans 15 minutes.
Ouais.
On s'arrête un tout petit moment. On revient tout de suite après.